VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Conakry, midi à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Le Rwanda confirme l'arrestation à Londres du général Emmanuel Karenzi Karake, chef des services de renseignement rwandais. Le ministre rwandais de la Justice, Johnston Businge, demande aux autorités britanniques des éclaircissements sur les raisons de sa détention. Le général Karenzi Karake est poursuivi pour génocide par la justice espagnole dans le cadre d'un processus engagé il y a plus de 7 ans par Madrid contre 40 militaires rwandais qui seraient responsables, entre autres, de la mort de plusieurs ressortissants espagnols. Londres dit que le général a été arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne. La ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, qualifie son arrestation de véritable scandale. Au Tchad, les militants des droits humains se mobilisent pour soutenir Djiralar Miankol, un membre de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, détenu depuis le 15 juin à Mundu, dans le sud du pays. Son association, Ngaou Burundi, lutte contre l'accaparement des terres des agriculteurs. Et Djiralar est poursuivi pour outrage à magistrat pour avoir dénoncé la corruption des magistrats dans les affaires foncières. Plus de précision avec Pyrrhus Banadji Baogel, porte-parole de la coalition « Trop, c'est trop ».
En fait, c'est des problèmes liés aux problèmes de conflits d'agriculteurs, des nouveaux riches qui accaparent des terres au niveau des sud, qui achètent des terrains, semble-t-il pour leur bétail. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Lui, comme son organisation est en train de lutter dans ce sens, et comme ça qu'il a dû dénoncer ce phénomène qui sévit ces derniers temps. Et non seulement à Niamey, mais il se trouve que, ce phénomène qui sévit un peu partout autour de Niamey, tout le long du fleuve Chari, etc.
Qui sont derrière ce phénomène?
Ce qu'on sait, c'est que les études ont démontré que c'est des généraux qui arrachent ces terres. Les propriétaires de bétail, en fait, on le met dans le vocable global des nouveaux riches qui apparaissent ces derniers temps. Il y a les autorités administratives, il y a les généraux de l'armée et tous qui ont de l'argent qui achètent des terres. On ne sait pas dans quelle vision, mais c'est comme ça que ça se passe.
Quel est cet aspect du rôle des magistrats que dénonce l'activiste Djiralar?
Souvent, les propriétaires terriens se plaignent auprès des autorités, ils ne trouvent pas bien de cause. Et ils sont souvent encouragés pour porter l'affaire devant la justice. Malheureusement, de ce côté-là, ils ne trouvent pas aussi bien de cause. Comme vous le savez, les gens, ils ont de l'argent, donc la justice, ces derniers temps, n'est rendue qu'en faveur de celui qui a l'argent. Et comme ça qu'on présume que les magistrats sont corrompus et l'affaire le plus souvent est rendue en faveur de ceux-là qui achètent des terres.
Que disent les autorités nationales à ce sujet?
Le phénomène a été dénoncé non seulement par le responsable de l'association Gabrandi, mais les associations de défense des droits de l'homme de manière générale ne cessent de le dénoncer, mais il n'y a pas de suite. Malgré les différentes assises, malgré les séminaires qui sont organisés, il n'y a pas de réaction énergique tendant vraiment à combattre ce phénomène. Donc, c'est ça qui, quelquefois, fait qu'on considère les autorités administratives d'être elles aussi complices de ce phénomène qui se passe.
Pyrrhus Banadji Baogel, porte-parole de la coalition Trop c'est trop, joint à N'Djamena par Timothée Donangmaï. En Centrafrique, l'ONU a nommé une ancienne magistrate canadienne à la tête de la commission d'enquête indépendante sur la gestion des affaires de viol présumé d'enfants par des soldats français et africains. Le point avec Eddy Issango.
La magistrate Marie Deschamps aura des autres membres à ses côtés. Hassan Jallo de la Gambie, procureur du tribunal pénal international pour le Rwanda, et Yasmine Sok, directrice de la Fondation pour les droits de l'homme en Afrique du Sud. Selon Stéphane Dujarric, porte-parole de l'ONU, ces experts travailleront de manière indépendante et auront libre accès aux documents et au personnel de l'ONU. Les personnes qui accepteront de témoigner devant la commission seront protégées des représailles, selon Dujarric, qui les a encouragé à contacter les experts directement. La commission commencera son travail en juillet et espère rendre ses conclusions dans un délai de 10 semaines. L'ONU est critiquée pour sa lenteur à répondre à des allégations d'abus sexuels très graves commis sur des enfants en République centrafricaine entre décembre 2013 et juin 2014, impliquant 14 soldats français. Ces derniers font l'objet d'une enquête judiciaire en France. L'ONU avait sanctionné un fonctionnaire qui avait de sa propre l'initiative, transmis un rapport aux autorités françaises pour les alerter. Des enfants âgés de 8 à 13 ans auraient témoigné avoir été violés par des soldats français, mais aussi tchadiens et équato-guinéens.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Crise politique en Guinée, le chef de file de l'opposition guinéenne, Sélou Dalein Diallo, prêt à conclure une alliance électorale avec son ancien adversaire, l'ex-chef de la junte militaire, Moussa Dadis Camara. C'est ce qu'annonce l'AFP, citant les déclarations de M. Diallo en ce sens la semaine dernière à Ouagadougou, où le capitaine Camara vit en exil. Sélou Dalein Diallo reconnaît s'être entretenu à plusieurs reprises ces dernières années avec l'ex-leader de la junte. Et les deux hommes auraient des convergences de vues, selon le chef de file de l'opposition guinéenne. Vaste opération policière en Côte d'Ivoire pour secourir des enfants victimes de trafic. Une cinquantaine ont été remis en liberté dans les plantations de cacao. Claire Morin-Gibault.
L'opération a mobilisé plus de 100 policiers, gendarmes et des agents des eaux et forêts les 4 et 5 juin dernier dans les plantations de cacao de San Pedro, situées dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette descente surprise, encadrée par Interpol, a permis d'arrêter une centaine de personnes suspectées de trafic d'enfants. Originaires du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali et du nord de la Côte d'Ivoire, 48 enfants âgés de 5 à 16 ans ont été secourus. Ces victimes étaient utilisées comme ouvriers dans les riches plantations de San Pedro, qui abrite également le premier port de cacao au monde. D'après un communiqué d'Interpol, ces enfants travaillaient dans des conditions extrêmes, particulièrement dangereuses pour leur santé.
Au Ghana, affrontement hier à Accra, la capitale, entre les habitants d'un bidonville et des policiers, suite à la destruction de constructions anarchiques. Une opération qui, selon la municipalité, s'inscrivait dans le cadre des mesures de lutte contre les inondations. Le point avec, ici à Kaba.
C'est au quartier Old Fadama d'Accra, communément appelé Sodome et Gomorre, que les heurts ont eu lieu. Quelques 600 000 personnes y vivent, près d'une station-service où un incendie avait récemment tué 150 personnes qui s'y abritaient de la montée des eaux. Hier, les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène contre des manifestants déchaînés. Selon la police, que cite l'AFP, quelques agents ont été blessés et une vingtaine de personnes arrêtées. Suite aux inondations qui ont dévasté la capitale ghanéenne en début de mois, le maire Alfred Van Der Puige a déployé des bulldozers pour tenter de remédier à la situation. Les constructions illégales et les dépôts d'ordures entravent l'évacuation des eaux de ruissellement et contribuent au désastre, a souligné de son côté le président ghanéen John Dramani Mahama. L'opération lancée par la municipalité a fait de nombreux sans-abri qui ont exprimé leur colère en marchant vers le Parlement et en vandalisant un bus et du mobilier urbain.
Actualité aux États-Unis maintenant, suite au meurtre de 9 paroissiens noirs dans une église de Charleston, en Caroline du Sud, par un jeune suprémaciste blanc la semaine dernière, plusieurs personnalités politiques réclament le retrait du drapeau confédéré sudiste de l'enceinte du Parlement sud-carolinien. Le dernier appel en ce sens a été lancé hier par la gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, en personne, Timothée Donangmaï.
Bien imbue de la controverse que suscite ce drapeau, Mme Haley a pris le soin de rappeler la valeur historique que certains confèrent encore à ce symbole de l'ère esclavagiste ici aux États-Unis. Pour de nombreuses personnes, ce drapeau signifie des traditions qui sont nobles, des traditions d'histoire, de patrimoine et d'ancienneté, a rappelé la gouverneure tout en ajoutant que pour beaucoup d'autres, en Caroline du Sud, il est le symbole d'un passé brutalement tyrannique. Par ailleurs, la Maison-Blanche a annoncé que le président Barack Obama et le vice-président Joe Biden se rendront vendredi à Charleston pour les funérailles du pasteur Clement Pinckney de l'église Emmanuel AME Church, l'une des 9 personnes tuées par le jeune Dylan Roof mercredi dernier.
Le chef de l'exécutif américain prononcera l'oraison funèbre du disparu. Et pour terminer, la guerre contre l'État islamique, les États-Unis ont annoncé hier qu'Ali Aouni Al-Arzi, un militant du groupe soupçonné d'implication dans l'attaque contre le consulat américain de Benghazi en Libye en 2012, a été tué lors d'un raid aérien de la coalition anti-État islamique la semaine dernière à Mossoul, dans le nord de l'Irak. Selon Washington, Ali Aouni Al-Arzi travaillait en étroite collaboration avec les extrémistes affiliés à l'État islamique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Et sa mort réduit le processus d'intégration des djihadistes nord-africains au sein de l'État islamique. Rappelons qu'à Benghazi, l'attaque avait causé la mort de 4 Américains, dont l'ambassadeur des États-Unis en Libye, Christopher Stevens.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.